La première,
9h-11h,
Entrée sans frapper.
Pierre Assouline est notre invité ce matin. Bonjour Pierre Assouline.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous de la radio suisse romande de chez nos amis suisses à Paris. On rappelle, vous êtes bien sûr journaliste, chroniqueur radio, romancier, bien sûr biographe. Vous avez signé de nombreuses biographies, Georges Simenon ou Hergé. Si on prend les Belges, Gaston Gallimard également, Marcel Dassault et pas mal d'autres. Des romans également, c'est votre 10e, je pense, ce Golem qui sort dans la collection Blanche chez Gallimard. On vous a lu dans La Cliente, Double Vie, bien sûr, les invités, une question d'orgueil. Et puis là, vous revenez, Pierre Assouline, avec Golem. Alors, Golem, c'est un mot qu'on connaît, on ne sait pas tous exactement ce qu'est ce Golem, on va en parler ce matin. En tout cas, ça commence comme un polar, votre livre. On va rencontrer un personnage, ce personnage, il s'appelle Gustave Meyer. C'est un joueur d'échecs internationalement reconnu. Et il va chez son médecin, Gustave Meyer, qui est par ailleurs un petit peu, genre un peu un grand ami à lui, parce qu'en fait il a des troubles épileptiques. Et en sortant de chez son médecin, de l'hôpital, il y a deux flics qui viennent l'arrêter. Et en fait, on va très vite réaliser qu'en fait, sa femme, Gustave Meyer, a été assassinée. En tout cas, elle est morte. Et sa femme, elle tenait un blog un petit peu genre Mediapart, comme ça, très engagé. Ça s'appelle Medicart. Et c'est un blog d'alerte, en fait, sur les dérives éthiques dans le domaine des neurosciences. Elle est morte. On va accuser Gustave Meyer, qui va donc prendre la fuite. Et c'est là que commence, finalement, votre roman comme un réel polar. Alors, Pierre Assouline, vous allez nous parler de divers sujets, bien sûr, mais le sujet principal de votre livre, c'est le transhumanisme. C'est cette manière dont aujourd'hui déjà et demain très certainement, les êtres humains vont être modifiés, voire améliorés. Alors, comment est-ce que vous êtes parti de ce joueur d'échecs, de Gustave Meyer, et de cette implication qu'il n'a pas, on le sait dès le début du livre, dans le meurtre de sa femme ?
Eh bien, en fait, vous l'avez dit, c'est l'histoire d'un fugitif, du début à la fin. On le suit dans sa fuite, on l'accompagne. Et il veut absolument trouver, lui, qui est l'assassin de sa femme, pour se disculper. Et en même temps, c'est une quête d'identité sur lui-même, car il s'est rendu compte, en faisant sa propre enquête, qu'il avait été en quelque sorte golémisé. C'est-à-dire que son meilleur ami, un neurochirurgien, qu'il avait opéré, on avait profité au cours de cette opération un peu particulière qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde pour lui implanter des électrodes de manière à booster sa mémoire de manière considérable. Et c'est là qu'on est au cœur de ma problématique, si vous voulez. Moi, j'étais parti d'un thriller à peu près classique, même si il est très nourri par la quête d'identité de cet homme, et puis par le mythe du golem, qui, comme vous savez, c'est le mythe qui a donné lieu à toutes les créatures artificielles, à tous les humanoïdes, de Frankenstein au super-héros d'aujourd'hui, en passant par Superman, Spider-Man et tous les autres. Tous font référence au golem, qui est une vieille légende qui est née au XVIe siècle dans le ghetto de Prague. Donc je m'en suis emparé de cette légende pour l'actualiser aujourd'hui parce que, en m'intéressant à toutes ces questions des robots et de l'intelligence artificielle, je me suis rendu compte que derrière tout ça, il y a tout de même non pas une secte, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais en tout cas un mouvement d'esprit. Qui est international, qu'on retrouve évidemment dans la Silicon Valley aux États-Unis, où il est né il n'y a pas très longtemps, il y a 25-30 ans, qu'on appelle les transhumanistes. Et qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gens qui pensent que l'homme est un animal extrêmement précaire et tout à fait inachevé. Et que cet animal pourrait être amélioré. C'est dommage de ne pas profiter des nouvelles technologies et des progrès de la médecine pour améliorer l'homme. Alors, c'est là que tout de suite il y a un problème parce que eux ils appellent ça l'homme augmenté. Quand vous leur dites c'est pas normal, ils vous répondent vous portez des lunettes ? Ben, vous voyez, vous êtes déjà augmenté et vous ne le savez pas. Sauf que c'est un sophisme. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est faire des opérations sur des sujets sains pour améliorer leur performance. En France, et je suppose aussi en Belgique, il y a ce qu'on appelle le comité d'éthique national qui est très vigilant, très rigoureux, qui évidemment autorise ces opérations très délicates du cerveau, mais pour des sujets malades, donc essentiellement pour des gens atteints de Parkinson d'épilepsie, de TOC et d'Alzheimer. Mais pas pour des sujets sains. Alors qu'aux États-Unis, on peut. On peut et
bien
on
sûr,
le fait.
Bien sûr. Alors, on peut recommencer au début. Hein. Pierre Assouline, on connaît quand même votre méfiance et votre défiance, en tout cas, pour les réseaux, pour l'Internet de manière générale. Je me rappelle avoir lu de vous des articles sur Wikipédia qui n'étaient pas élogieux. En quoi est-ce que ce grand réseau qu'est Internet aujourd'hui, et commençons par là, parce que ces cerveaux, ils sont très probablement connectés à Internet un jour, commençons par là. Pourquoi ces grandes boîtes comme Google ou une encyclopédie universelle comme celle de Wikipédia vous met dans le doute et voire vous les détestez?
Non, vis-à-vis de Wikipédia, vous savez, on a tendance à confondre Wikipédia et Internet. Hein, ce sont deux choses différentes.
Bien sûr.
Wikipédia, c'est une chose de très particulière, une chose à laquelle on n'échappe pas aujourd'hui. Donc je ne suis pas contre, ce qu'on ne peut même pas être contre, puisque ça s'impose. Mmh. Étant donné le référencement, quel que soit le sujet qu'on recherche,
on tombe sur Wikipédia.
Simplement, j'appelle à une vigilance critique dans la lecture de Wikipédia, parce que il n'y a pas d'hiérarchie dans les informations qui sont données et elles sont très souvent controuvées et parfois totalement fausses et mensongères. Et il n'y a pas d'auteur officiel. Or, quand on cherche un peu sur un certain nombre de données historiques ou même politiques et actuelles,
évidemment,
on s'aperçoit que les principaux intéressés sont les auteurs de notices à leur propre gloire. Donc, je dis simplement, attention. N'utilisez pas Wikipédia comme source, ce n'est pas une source. C'est un élément d'information, mais ça ne peut pas être une source au sens journalistique du terme ou au sens historique du terme. Alors pour ce qui est de l'Internet, évidemment, moi je ne suis pas contre, je tiens un blog depuis 10 ans. Mais,
bien sûr, on va en parler d'ailleurs.
Mais vous savez, les transhumanistes dont on parle, on pourrait croire que ce sont des farfelus, des fantaisistes, mais il suffit d'aller sur leur site, transhumaniste américain ou français, en tout cas les Américains, sur leur site, c'est très transparent. Les gens qui financent les études sur le transhumanisme et la recherche transhumaniste et tous leurs travaux, leur université, car ils en ont une, qui s'appelle Université de la Singularité. C'est qui ces gens qui financent? C'est la NASA, l'armée américaine, Google, Amazon, Microsoft et Facebook. C'est-à-dire les plus grandes sociétés américaines, celles qui font le plus de profit, qui gagnent le plus d'argent et qui investissent le plus aujourd'hui dans la recherche artificielle, dans la recherche sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sur les robots. Alors, évidemment, tout ça se tient, mais ce que je veux dire, c'est attention, c'est pas du tout, on n'est pas dans un domaine de fantaisie, on est face à un problème qui est un vrai débat d'aujourd'hui et pour les 20 ou 30 ans à venir.
Mais qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans, justement? Quel danger vous voyez poindre?
Comment dire? Imaginez, je vais vous donner un exemple. C'est un cauchemar que j'ai fait récemment. Dans ce cauchemar, le candidat des Républicains américains, c'était Donald Trump. Il était dans un grand débat face à Mme Clinton. Et soudain, ce Trump, dont on sait tout aujourd'hui, se révélait comme un débatteur formidable sur le plan de la politique intérieure, politique étrangère, politique sociale, à tout point de vue. Et il avait des références historiques imbattables. Et il remportait le débat haut la main. Eh bien, qui vous dit que cet homme n'était pas augmenté? C'est-à-dire qu'on aurait boosté sa mémoire pour qu'il engrange des milliers d'informations qu'un être humain ne peut pas engranger, parce que la mémoire de l'être humain, elle est relativement limitée. Donc on l'aurait boosté. Ça ne se voit pas de dehors. Ce que je veux dire, c'est que le transhumanisme et l'homme augmenté, ça accroît considérablement les inégalités et surtout, ça pousse au culte de la performance, mais à un niveau jamais atteint jusqu'à présent. Et on sait les ravages que ça peut provoquer, le culte de la performance. Imaginez que vous serez face à des gens dont la vue peut être augmentée, qui peuvent voir des choses que vous ne voyez pas, la nuit par exemple, dont l'ouïe peut être augmentée, dont tout le corps, tout l'organisme, à tout point de vue, et notamment dans le cerveau, donc peut arriver à des performances qu'un humain ne peut pas atteindre. C'est très bien de pouvoir le faire, par exemple, avec des soldats qui sont en situation de crise, qui parfois pendant 3 jours ne peuvent pas dormir quand ils sont au front et qui ont besoin d'être soutenus psychiquement et organiquement, etc. Et ça, c'est le cas des recherches de l'armée. mais pas sur, je dis, des hommes politiques ou d'autres,
hein, évidemment.
Peu importe,
évidemment.
Ou des hommes d'affaires ou j'en sais rien. Ça mène à des dérapages éthiques qui sont considérables.
Mmh. On va justement en parler, hein, parce que votre personnage, Gustave Meyer, il va se demander, hein, au long du bouquin, et c'est là que la quête d'identité intervient, bien sûr, et c'est le côté très intéressant, bien sûr, du livre, c'est la quête d'identité. Est-ce que je suis devenu un monstre ? Qui suis-je aujourd'hui ? En tout cas, moi qui ai été modifié. On en parle avec vous, Pierre Assouline, ce sera juste après MC Solar. Et nouveau western, on rappelle que votre roman qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Golem, paru chez Gallimard.
La première, entrée sans frapper.
Qu'en fond la neige ? Où va le blanc ? C'est la phrase qui ouvre ce roman de Pierre Assouline. Il s'intitule Golem. On va y suivre Gustave Meyer. Gustave Meyer, joueur d'échecs, qui a des migraines, hein, chroniques, crise d'épilepsie, etc. Et donc, il côtoie beaucoup son médecin, bien évidemment. Et il va être accusé, à tort, bien sûr, on le sait tout de suite, du meurtre de sa femme, Gustave Meyer, qui meurt dans un accident. Il va s'enfuir. Et il va découvrir, hein, durant l'enquête qu'il va mener, qu'en fait, il a été modifié par son ami médecin. Et c'est là que cette grande, grande thématique du transhumanisme entre dans le roman de Pierre Assouline. Elle est très belle, cette première phrase de votre roman, Pierre Assouline.
Si.
Qu'en fond la neige, où va le blanc ? Ça m'a fait penser à une chanson de Miossec qui demande que devient ton poing quand tu tends les doigts.
Ah oui, 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 il y a de ça. Oui, moi, elle m'intrigue, cette phrase, depuis longtemps, d'autant plus que elle est attribuée à Shakespeare et je voulais savoir dans quelle œuvre de Shakespeare elle était. Et donc j'ai fait des recherches pendant des années. J'ai demandé à des Shakespeariens. Vous savez qu'il y a des sites shakespeariens en Angleterre qui pullulent et qui ont mis toute l'œuvre en ligne. Et en fait, on ne l'a pas trouvé. Et donc, ce ne serait pas de lui. Alors, je ne sais pas de qui c'est. Mais moi, ça m'a hanté depuis très longtemps. Et donc, je suis parti de ça. Et parce que je suis parti d'une salle d'attente dans un grand hôpital à Paris. Mmh. Et effectivement, il m'est arrivé d'y être. Tout est blanc. Tout est blanc. Et quand il y a la neige dehors, c'est aussi blanc dehors que dedans. Mmh. Et nous, on attend le médecin. Et là, il y a une tache de couleur sur le mur. Et c'est une gravure d'un tableau de Roscoe,
voilà,
qui m'a beaucoup intrigué.
Alors, il vous a beaucoup intrigué et il va beaucoup intriguer aussi Gustave Meyer, Rothko. Rothko, finalement, c'est la seule chose rassurante dans ce roman. En tout cas, c'est la seule chose qui rassure Gustave Meyer. C'est ce fameux tableau de Rothko et de Rothko de manière générale. Alors que Rothko n'est pas, je trouve, le peintre le plus rassurant de l'histoire de l'art.
C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Moi, il m'intrigue, il me passionne, il m'a envoûté, hein, très longtemps, et c'est encore le cas. Et c'est, je ne vous cache pas que, évidemment, dans mon personnage du golem et de Gustave Meyer, il y a beaucoup de moi,
évidemment.
Bien sûr, même si je ne suis pas lui et réciproquement. Et je lui ai prêté ma passion pour Roscoe parce que c'était le cas. Et je l'ai emmené à Londres, puisque j'y avais été moi-même, dans la salle des Roscoe de la Tate Gallery, parce que c'est un endroit envoûtant, où il y a vraiment un génie des lieux, il y a une âme, et on est enveloppé par les tableaux là-bas. Et comme il a voulu qu'ils soient accrochés à hauteur d'homme, il disait c'est pour que le spectateur ait envie d'y entrer. Sauf que mon héros, qui est quand même un type un peu spécial, hein, comme tous les très grands joueurs d'échecs, ce n'est pas des gens tout à fait comme nous. Ils sont un peu à l'ouest, comme on dit, parce qu'ils ont 64 cases dans le cerveau et qu'ils sont un peu obsédés par ce prisme de l'échiquier pour voir le monde. Ils passent quand même 8 à 10 heures par jour à faire des parties et à refaire des parties, des fins de parties, des débuts de parties, etc. Mmh. Et on sait que les échecs, c'est la guerre. Hein. Donc, voilà, tout ça est un peu. Alors lui, quand il passe 2 heures face à un tableau de Roscoe, il n'a qu'une envie, c'est de prendre le peintre au mot et d'entrer dans le tableau. Mm-hmm. Sauf qu'il va vraiment le faire et pour entrer dans son univers. Et donc là, la police, évidemment, va intervenir pour l'en empêcher et il va poursuivre sa fuite.
Évidemment.
Alors, je voudrais dire,
oui, allez-y.
Il y a deux choses, j'en profite, c'est que dans le courrier des lecteurs, hein, qui est assez nombreux, et dans les réactions des gens dans les conférences que je fais, dans les débats et tout ça, il y a des gens qui me disent très souvent, il y a deux choses qui sont formidables, mais qui sont évidemment de la science-fiction que vous avez inventée. Où est-ce que vous avez trouvé cela ? C'est d'une part l'opération chirurgicale que subit cet homme, qui est me dit-il invraisemblable, et d'autre part la manière dont sa femme a été assassinée. Or, dans les deux cas, ce n'est pas la science-fiction, je ne l'ai pas inventé, c'est très documenté. La stimulation cérébrale profonde est une opération qui existe, à laquelle j'ai assisté pendant 8 heures, ça dure 8 heures.
Ah oui.
Évidemment, ce n'est pas une opération d'appendicite, hein, ça ne se fait pas comme ça, de manière très courante, mais ça se fait plusieurs fois par semaine à Paris, à l'Institut du cerveau, pour soigner notamment des parkinsoniens. Mmh. Et c'est on implante des électrodes dans l'hippocampe. Et donc ça, je voudrais dire, je ne l'ai pas inventé, tout ça est parfaitement documenté scientifiquement. Et puis l'autre chose qui a intrigué beaucoup de lecteurs, c'est la manière dont cette femme meurt. Mmh. Je vous rappelle qu'elle conduisait sa voiture sur les bords de la Seine à Paris, elle faisait du 100 à l'heure et soudain, elle a freiné d'un coup. Et il y a eu un carambolage qui a propulsé sa voiture dans la Seine.
Et elle meurt noyée.
Et donc, elle meurt noyée. Or, ce que je raconte, c'est qu'en fait, elle est assassinée par des hackers